Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Caribou, Liberté et Le Libraire. Au programme, découvrir le savoir-faire culinaire de l'Outaouais. Isabelle Deschamps-Plante, une vraie de vraie gentille. Politique spéculative. Et nos suggestions de lecture. Bonne écoute.
Découvrir le savoir-faire culinaire de l'Outaouais. Un texte de Geneviève Vézina Monplaisir paru le 8 mai 2023 dans la revue Caribou. Réputé pour ses grands espaces où il fait bon jouer dehors, l'Outaouais se démarque également grâce à son offre agro-touristique. Bière locale, chocolat fin, glace artisanale, aromates, pommes et cidre. Il y en a pour tous les goûts, et ce, aux quatre coins de la région. Prêt pour un petit road trip? Voici cinq arrêts gourmands à inclure à votre itinéraire. Premier arrêt, Choco Motive, Montebello, en bordure de la rivière des Outaouais. Le chef Luc Guélen carbure au projet. Mais celui qui s'est initié au métier de chocolatier dès l'âge de 17 ans dans sa Belgique natale n'avait pas nécessairement imaginé avoir une chocolaterie. Encore moins en Outaouais, où il s'est installé il y a près de 40 ans, muni d'un simple visa de travail. Je suis venu pour aider une connaissance à ouvrir son restaurant, puis je ne suis plus reparti, raconte-t-il, séduit par la chaleur de l'accueil qu'on lui a servi. Après avoir fondé son propre restaurant, le Sans Pareil, puis enseigné l'art culinaire, Luc Guélen a renoué avec son premier amour, le chocolat. Aujourd'hui, son économusée et sa chocolaterie artisanale, où il ne travaille que les ingrédients biologiques et équitables, ont redonné vie à l'ancienne gare de Montebello. On y va, entre autres, pour goûter à la Manon, une praline belge classique au chocolat blanc à base de pâte d'amande, de crème au beurre, véritable, et d'une pacane, au 502 rue Notre-Dame à Montebello. Deuxième arrêt, microbrasserie 5e Baron à Gatineau, plus précisément sur la rue principale dans le vieux Elmer, à proximité de la plage et de la marina. En installant leur microbrasserie dans la rue principale, Jacob Barrett, Dimitri Carabin et Stephen Washer souhaitent valoriser l'esprit de communauté qui règne dans ce secteur de Gatineau. Leur pub, inauguré en 2020 et inspiré des petits bars de quartier qu'on trouve en Allemagne comme en Angleterre ou au Vermont, propose non seulement des bières brassées sur place à partir de houblon local, mais aussi des sandwichs faits du pain de la boulangerie aux deux frères, installés à quelques portes de là. « Nous voulons faire briller le meilleur de la région », souligne Jacob Barrett, lui-même originaire du coin et passionné de produits locaux et de bonne bière, tout comme ses deux acolytes. On y va autant pour profiter de la belle terrasse que pour déguster une ou plusieurs des 14 bières en fût. Au 55 rue principale à Gatineau. Troisième arrêt, la Cigale, à Chelsea, tout près du parc de la Gatineau. L'histoire d'amour entre Chris Carlsberg et la crème glacée remonte à sa plus tendre enfance passée dans la région de Toronto. Mon grand-père, qui habitait tout près de chez nous, avait l'habitude de nous amener manger une glace, se souvient-elle. Un diplôme en cuisine et un séjour au Sénégal plus tard, Chris décide de se lancer dans la production de glace artisanale. Mais pas n'importe comment. En plus de créer ses propres recettes originales, pensées chai gingembre ou réglisse noire, La chef cuisine ses propres cornets gaufrés. Je ne veux pas vendre seulement des crèmes glacées, je veux offrir une vraie expérience gustative. On y va pour se délecter d'une glace framboise et chocolat blanc, une des saveurs les plus populaires auprès de la clientèle. 14. Chemin Scott à Chelsea. 4e arrêt, Herboristerie La Fée des Bois, Shawville, dans le nord-ouest de l'Outaouais, un territoire de grands espaces sauvages. L'herboriste Marianne Desjardins-Roy n'a pas toujours rêvé de grands jardins où elle ferait pousser des aromates et d'autres plantes médicinales. À Montréal, pendant 10 ans, où elle a passé toute sa vingtaine, la Gatinoise d'origine cherchait sa voie. « C'est là que j'ai découvert que la grande ville, ce n'était pas pour moi », raconte-t-elle. « Je savais que je voulais aller en campagne, mais je ne savais pas exactement pour faire quoi. » Puis elle découvre l'herboristerie comme un coup de foudre. Depuis, Marianne concocte tisane et sel aromatisé à partir des plantes qu'elle cultive sur sa terre. « Je voulais vraiment avoir les mains dans la terre et fabriquer mes produits de A à Z à partir de plantes fraîches et locales », fait-elle valoir. On y va pour visiter ses jardins et mettre la main sur un pot de sel viking préparé avec l'ail et les piments de Cayenne rouges cultivés et fumés à la ferme, parfait pour rehausser vos barbecues d'été. Au 34 chemin Greermont à Shawville. 5e arrêt, Verger Merlot, Bouchette, dans la Haute-Gatineau, où le patrimoine agricole se fait encore bien sentir le long de la rivière. Michel Merlot a grandi à Bouchette. Dans les années 50, il n'y avait pas l'ombre d'un verger dans la région. Les choses changent toutefois, et le gestionnaire municipal à la retraite n'y est pas étranger. Le verger, c'est mon projet de retraite, précise celui qui a notamment dirigé les villes de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu, au cœur de la région de la pomme, justement. Dès l'an 2000, il plante ainsi 10 pommiers des Lobos. Une 20aine d'années plus tard, le projet a pris de l'ampleur. Sur 3 acres, son verger compte aujourd'hui une 15aine de cultivars comme la McIntosh et la Cortland, mais aussi la Honey Crisp, la Freedom et la Sunrise. C'est suffisant pour l'autocueillette, mais aussi pour produire, bon an mal an, autour de 2500 bouteilles de cidre. Prochain objectif, réaliser une cuvée de brandy de pommes. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. On y va pour l'autocueillette et pour repartir avec, au moins, un des 5 cidres de la gamme. Au 72 chemin Paul, à Bouchette. C'était « Découvrir le savoir-faire culinaire de l'Outaouais », un texte de Geneviève Vézina Montplaisir, paru le 8 mai 2023 dans la revue Caribou. Isabelle Deschamplante, une vraie de vraie gentille. Un texte de Virginie Landry, paru le 1er juin 2023 dans la revue Caribou. En avril 2023, Ricardo Larrivé annonce qu'il quitte sa populaire émission éponyme à Radio-Canada, celle qu'il anime depuis 21 ans. C'est Isabelle Deschamplante, sa fidèle collaboratrice des dernières années, qui prendra sa relève. Avec son impressionnant CV, 24 années d'expérience en cuisine, chef exécutive des cafés Ricardo, responsable du développement des recettes du magazine Ricardo, juge à l'émission Les Chefs, elle s'avère en effet le choix logique et intelligent pour succéder au gourou des meilleures recettes du Québec. D'emblée, Isabelle Deschamps-Plante ne considère pas qu'elle remplace Ricardo. Elle préfère dire qu'elle prend sa plage horaire, puisque selon elle, il est impossible de le remplacer autant à la télévision que dans le cœur et les cuisines des gens. Je me suis inscrite à un atelier de cueillette sauvage ce printemps, raconte-t-elle. Les gens m'ont surnommé toutes sortes de choses comme la relève ou Ricardette. Je leur ai bien dit que non, je ne suis rien de ça. Je suis Isa. Isabelle, c'est une fille native de l'île d'Orléans qui cultive sa curiosité gourmande depuis la tendre enfance. Quand j'étais petite, j'allais faire l'épicerie avec ma mère et lorsque je voyais un aliment que je ne connaissais pas, elle me l'achetait. C'est comme ça que j'ai découvert la mangue et la carambole, pour ne nommer que ceux-là. Réellement passionnée par la cuisine, elle fait ses études en technique de gestion des services alimentaires et de restauration à Québec, puis est rapidement embauchée au restaurant 47e parallèle, maintenant le 47. Elle y sera d'abord cuisinière, puis chef pâtissière. En plus de la gastronomie, un autre domaine l'allume, l'éducation. De jour, elle étudie au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à l'Université Laval et le soir, on la retrouve derrière les fourneaux au resto. J'ai ce côté pédagogue en moi. J'aime vulgariser la cuisine, explique celle qui, maintenant, aura un très large auditoire à qui transmettre ses connaissances. Je n'ai jamais aspiré à faire de la télé. Le public fait connaissance avec Isabelle Deschamps-Plante en 2013 lorsqu'elle participe à l'émission Les Chefs. Même si elle n'obtient que la deuxième position, on découvre alors une femme aux nombreux talents en cuisine. Hyper charismatique, vraisemblablement très gentille et avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Elle revient à l'émission l'année suivante pour une saison spéciale, La Revanche, où elle repart encore bonne deuxième. Isabelle était loin de se douter que c'était là le début de sa carrière au petit écran. Faire de la télé, c'est un tout autre métier que celui de cuisinière, admet Isabelle, qui n'avait alors aucune expérience là-dedans. En plus, il faut apprendre à gérer son temps pour réaliser une recette. Ça a l'air si facile quand c'est Ricardo qui le fait, mais en vrai, c'est autre chose. Après ses passages remarqués au chef, elle accepte de devenir collaboratrice à l'émission L'Épicerie. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'aimais quand même ça faire de la télé, se remémore-t-elle. Afin de perfectionner ses apparitions, elle travaille avec un coach toutes les semaines. Son souhait, que les gens, quand ils me voient à la télé, voient la vraie moi. Elle poursuit. On me dit souvent que j'ai le bonheur facile et que j'ai un bon esprit d'équipe. Je serai heureuse si je suis capable de transmettre ma bonne humeur à l'écran. L'air Ricardo. Comme bien des Québécois, Isabelle est fan de Ricardo depuis le tout début de sa carrière. Ma mère et moi, on écoutait Ricardo alors qu'il était chroniqueur à l'émission Les Saisons de Claudine quand j'étais jeune. On le mettait sur pause, le temps de suivre les étapes de sa recette, raconte-t-elle un brin nostalgique. C'était donc un peu surréel pour elle d'être invitée à collaborer à son émission en 2016. Je me souviens encore de ma première recette cuisinée avec Ricardo. C'était un gâteau aux carottes. Je pensais que j'allais perdre connaissance. Ce souvenir l'a fait encore bien rire. Même si faire de la télévision était un grand défi pour elle, reste que l'ouverture des cafés Ricardo l'était encore plus. La chef, qui a déménagé de Québec jusqu'à Montréal pour accepter ce poste, a dû comprendre ce que recherche Ricardo et associer ça à sa cuisine. Il m'avait dit « Tu vas finir par savoir exactement quand je vais prendre une bouchée de ta recette et que je vais aimer ça. » Et oui. Elle a fini non seulement par comprendre Ricardo, mais aussi par maîtriser son style, à dynamiser sa vision ainsi qu'à proposer sa touche personnelle tout en incarnant celle de son mentor. Ricardo cherche des plats savoureux, simples, accessibles et qui font découvrir de nouveaux aliments ou de nouvelles façons de les apprêter. Est-elle maintenant capable de résumer facilement? J'aimerais qu'un jour les gens disent « j'ai cuisiné du Isa » comme ils disent qu'ils ont cuisiné du Ricardo. Le début d'un temps nouveau. L'automne d'Isabelle s'annonce bien rempli. Son émission « La cuisine d'Isabelle et Ricardo » lui permettra de cuisiner au rythme des saisons et de partager sa vision ultra-rafraîchissante du locavorisme, concept qu'elle prône depuis toujours. C'est non seulement vraiment important pour moi de mettre les ingrédients locaux à l'honneur, assure-t-elle, mais je considère aussi que c'est mon rôle. J'ai une plateforme incroyable pour le faire et je vais m'en servir. Qui sait? Grâce à elle, peut-être que les Québécois réussiront finalement à troquer leur vanille pour du mélilo ou le citron pour l'argousier, tout en ajoutant plus de baies nordiques, de produits du Saint-Laurent et de fleurs comestibles à leur assiette. Je mentirais si je disais que je ne suis pas nerveuse. Je suis assurément fébrile. Par contre, je n'ai pas l'impression d'être un imposteur. Je suis une chef qui fait de la télé, pas juste une animatrice d'une émission de cuisine. C'était Isabelle Deschamps-Plante, une vraie gentille, un texte de Virginie Londry, paru le 1er juin 2023 dans la revue Caribou.
Politique spéculative. Un texte de Valérie Lefebvre-Fauché, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté. Le gouvernement canadien, qui continue par ailleurs à criminaliser les écolos, annonce cette année des investissements majeurs dans la protection de la biodiversité et une réduction du soutien au pétrole, qui sera, ne paniquez pas, compensé par un financement accru des technologies vertes. Ce genre d'annonces, et les programmes qui viennent avec, pleuvent de tous les paliers de gouvernement et les écologistes n'ont d'autre choix que de se précipiter avec l'énergie du désespoir vers cette manne, proclamée après des décennies de manque. Une bien bonne chose, n'est-ce pas? Des investissements en environnement, il en faut, beaucoup et tout de suite. Liberté a bien évidemment répondu présente, et nous voilà en train de rédiger, comme tout le monde, des projets et une politique d'éco-responsabilité pour entrer dans le bal de la gestion verte. Et je me creuse la tête. Que pouvez-vous annoncer? Quel grand engagement prendre quand vous êtes un petit organisme culturel qui résiste depuis toujours aux impératifs de croissance, quand votre principale ressource est la littérature d'idées et que vous accordez déjà une place centrale à des écologistes radicaux? Bien sûr. Nous pouvons parler de type de papier et d'encre, de nos petits tirages, de notre diffusion choisie, du recyclage. Mais nous sommes bien loin des Glencore et Rio Tinto de ce monde qui doivent être en mesure de rédiger des planifications écolo de légende, véritables romans d'aventure futuriste. Comme j'essaie d'être une gestionnaire respectable, je n'écrirai pas dans nos objectifs empêcher la disparition de la vie sur Terre ou la révolution, mais quelque chose comme réduire la consommation d'électricité au bureau de 15% selon des critères mesurables. Ce n'est pas que je sois particulièrement cynique, mais j'ai l'habitude, comme vous sans doute, de la machine à détacher du réel. Le détournement est si régulier, si attendu, qu'on ne le remarque presque plus, sauf pour un petit souffle au cœur, une fuite. Il arrive qu'en parlant, on perd du sens au lieu d'en construire. C'est ce qui arrive quand on se laisse coincer, malgré soi, dans une situation bureaucratique ou dans une réunion avec des spécialistes des ressources humaines. On essaie de bien faire, mais plus on additionne les mots, plus on s'éloigne de notre intention de départ. Le langage ne sert plus au partage. Il met en boîte, nous transforme en matière sans capacité de penser, telles des palettes de boîtes conteneurs. L'assureur vous remercie de votre compréhension. Veuillez rappeler plus tard. N'oubliez pas d'évaluer la qualité de notre service et vous ouvrez la bouche en vain, étourdi par le vide. Il n'y a pas d'option pour représenter ce que vous avez à l'esprit. Qu'importe, ça parlera par-dessus vous avec plus de force, plus de cohérence et de normalité que vous. On dirait que nous vivons avec un blob, un cauchemar qui détourne tout à des fins de profit, dans un bruit de succion. Un monstre qui exploite non seulement la matière, mais aussi l'idée, le langage et jusqu'à l'imagination. C'est à manquer d'enthousiasme au moment de rêver. Dans un ordre capitaliste fantasmant, la production infinie, nos cerveaux, sont une ressource à exploiter et le discours vert une solution pour que la décroissance se rapporte. Un peu comme la finance se base maintenant en grande partie sur des fictions, au point de ne plus avoir besoin pour faire des profits que ces projections s'avèrent, il existe de la politique spéculative. Vous êtes une personne engagée, prête à changer le monde? Ce système a de quoi vous occuper. Campagne publicitaire, sondage sur les attentes des Canadiens et Canadiennes en matière de justice sociale, atelier de formation sur la transition TM, COP, rapport d'utilisation du fonds d'aide à la numérisation des contenus sur la diversité. Ce qui compte, ce n'est pas le changement, mais votre contribution au bilan de quelqu'un, le nombre de cases que vous permettrez de cocher dans la grille qui compile les rapports sur les rapports. Vous ferez de votre mieux pour remplir les colonnes, en attendant le moment d'agir. Et vous sentirez l'écart se creuser entre ce que vous dites faire et ce que vous voulez faire. Si vous êtes un peu parano, vous vous demanderez si ce n'est pas exactement ce qui est attendu de ces programmes. Votre langue, votre âme occupée à raconter l'action politique plutôt qu'à agir. Vous vivrez avec une fuite, toujours un peu plus d'énergie et de sens qui s'échappe, de moins en moins capable de regarder le monde en face. Vous chercherez alors, frénétiquement, les mots qui ont encore un peu de force. Vous remplirez des lettres d'intention qui disent « Ouch !»« Au secours !» Non. Dans la section calendrier et étapes de réalisation, vous écrirez des choses toujours plus vraies, toujours plus graves. Étape 1, grève générale illimitée. Étape 2, magie noire. Étape 3, immolation. Vous frapperez pour redonner un pouls aux mots inertes. Dans votre cauchemar, votre demande de financement sera acceptée. C'était Politique spéculative, un texte de Valérie Lefebvre-Fauché, paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la revue Liberté.
Nos suggestions de lecture. Des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Renouer avec la terre et tout ce qui nous unit. Tania Talaga, traduction Catherine Ego, XYZ. Tania Talaga, journaliste Ojibwe, maintes fois récompensé, signe avec cet essai un appel à la mobilisation et à la réparation pour une jeunesse autochtone traversant une pénible crise où les suicides se multiplient. Avec l'appui de statistiques et des récits recueillis à même les communautés, elle souligne à très fort les effets néfastes du déracinement, des lacunes de soins de santé et services sociaux et du manque d'établissements scolaires comme de l'accès à l'eau potable. Un plaidoyer pour une saine solidarité et un retour à la nature. Animoctouk, Norma Dunning, traduction Daniel Grenier, Mémoire d'Encrier. Ce recueil de nouvelles de l'auteur inuit Norma Dunning a déjà remporté 3 prix littéraires dans sa version originale anglaise. C'est qu'il est à la fois drôle et incisif, lucide et révélateur d'une époque, d'un lieu, d'une communauté. Ses courts textes, tantôt très durs, tantôt très cocasses, parlent ainsi de sexualité féminine, évoquent la cosmologie, mais aussi les mœurs, les pensionnats, le racisme, l'amour, la violence, la vieillesse. Et surtout, Dunning ose le rire, démantèle les idées reçues sur les Inuits et leurs valeurs et offre une œuvre littéraire de qualité. C'était nos suggestions de lecture des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Serge Hamelin et Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.